Bayonne et les Jésuites à l'époque moderne, c'est le thème de la conférence que nous vous proposons aujourd'hui. Conférence de Josette Pontet, professeur émérite des universités. Conférence enregistrée le 19 avril 2006 lors du colloque du 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier 1506-1552. Bayonne et les Jésuites à l'époque moderne, Josette Pontet.
Mon propos, en effet, c'est de me poser pour quelques moments à Bayonne. En fait, l'histoire des jésuites à Bayonne à l'époque moderne est une histoire très conflictuelle et assez, je dirais, quand même exceptionnelle, même si elle n'est pas absolument unique. En effet, alors que progressivement, les jésuites se sont installés presque partout en France et particulièrement dans le sud-ouest, nous ferons la comparaison notamment avec Bordeaux, Bayonne s'est trouvée constamment en opposition à l'installation des jésuites à Bayonne. En fait, quand je dis Bayonne, c'est essentiellement le corps de ville et une partie dominante de l'opinion bayonnaise, car les jésuites avaient aussi des partisans dans cette ville. En fait, la progression des jésuites en France a été au départ assez difficile. Elle a été favorisée par Henri II, d'une manière générale par les Valois, mais elle a suscité un certain nombre de restrictions dans la mesure où les jésuites étaient, comme on l'a dit ce matin, des agents, ou en tous les cas étaient considérés comme des bras du pouvoir pontifical, et qu'il y avait en France constamment, de façon sous-jacente ou exprimée, un gallicanisme assez fort et qui était très réticent à la présence d'un pouvoir ultramontain. Le terme n'est pas forcément employé au départ, mais disons venu de Rome ou d'ailleurs. Mais l'expansion a été rapide en France et particulièrement dans la France méridionale, avec quelques moments difficiles et particulièrement les moments qui ont été ceux de la fin du XVIe siècle, où la guerre qu'on pourrait dire de religion, mais qui était aussi une guerre civile, qui opposait des intérêts tout à fait différents et divergents, a mis en péril, en quelque sorte, la place des jésuites. Vous savez qu'ils ont été accusés d'avoir été les instigateurs, sinon les instigateurs, mais tout au moins assez responsables d'un attentat contre Henri IV, celui de Châtel, que Henri IV les a supprimés pendant un certain temps, avant de leur redonner droit de cité, après négociation, en 1603. Donc il y a partout un certain nombre de tensions qui se sont manifestées dans le royaume de France quant à la présence des jésuites. Mais on peut dire que à peu près partout, à dépit des épisodes plus conflictuels, ceux de la Ligue, ceux des premières années du règne d'Henri IV, il y a eu une acceptation, même souvent une véritable acceptation positive des jésuites, leur installation dans la ville. Et on peut dire que si on s'en tient au sud-ouest, Bordeaux est devenue une des grandes villes jésuites de la France dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. À Toulouse également, les jésuites sont très bien installés et on a un petit peu une France méridionale particulièrement bien, je dirais, quadrillée par les jésuites. Bordeaux, en fait, a accueilli les jésuites assez vite et il y avait à Bordeaux un collège qui était dirigé par des prêtres, par des religieux, par des séculiers, par des professeurs éminents, qui était le collège de Guyenne, qui était patronné par, j'insiste parce que nous verrons que ce n'est pas quelque chose d'indifférent pour Bayonne, et qui était patronné par les édiles, la Jurade, c'était le collège de Guyenne, où Montaigne a d'ailleurs fait une partie de sa scolarité. Et très vite, les jésuites ont été des concurrents de ce collège de Guyenne, des concurrents victorieux, et ont établi un collège, le collège de la Madeleine, qui a été mis en sourdine pendant la période de suspension des jésuites par Henri IV, mais qui, en 1603, est réouvert et a beaucoup d'élèves. Et pour vous dire, l'impression que donne Bordeaux, c'est que, si l'on en croit Nicole, un des opposants et des anti-jésuites en quelque sorte, il signale qu'il n'y a pas une ville du royaume où les jésuites sont mieux vus qu'à Bordeaux. Bordeaux est la capitale, la métropole de la province Aquitaine. Bayonne n'en fait pas partie. Du point de vue religieux, elle dépend de la métropole d'Auch. Et en tous les cas, son comportement à l'égard des jésuites est radicalement différent de celui que l'on trouve à Bordeaux. Il y a un établissement donc très important des jésuites. À Bordeaux, le collège est rétabli en 1603. En 1607, il y a l'érection du noviciat qui est destiné à former des jeunes jésuites. Et en fait, une maison professe est établie en 1624, c'est-à-dire qu'on a toute l'infrastructure jésuite à Bordeaux dans les premières années du XVIIe siècle. Et pour vous donner une idée de l'importance de la présence des jésuites à Bordeaux, en 1610, il y a 124 religieux jésuites à Bordeaux, d'après la thèse de Bernard Pérouse, qui a étudié la contre-réforme à Bordeaux au XVIIe siècle. Il y en a 107 à Toulouse, il y en a 93 à Lyon et 42 seulement, si je puis dire, à Paris. Donc je ne vais pas énumérer la présence des jésuites dans toute la France, mais vous aurez compris très vite que Bordeaux s'installe véritablement comme une métropole où les jésuites, en ce début du XVIIe siècle, sont extrêmement dominants. Ils ont en même temps une confirmation de la possibilité d'avoir une chaire de théologie, même s'ils ne sont pas intégrés directement à l'université. Et on peut dire donc que la présence jésuite dans l'Aquitaine est tout à fait considérable. En 1603 également, la ville de Bordeaux a un nombre très important d'élèves chez les jésuites. Et en 1603, c'est le renouveau du collège. Mais dès 1610, 1200 élèves sont dans le collège des jésuites de la Madeleine à Bordeaux. C'est dire, si vous voulez, la fulgurance de cet effectif. Pour la petite histoire, on pourrait dire que les Bayonnais n'envoient pas beaucoup leurs enfants à Bordeaux. Il y en a tout de même 8 à 10 qui sont élèves des jésuites dans cette période faste du développement de l'enseignement des jésuites à Bordeaux. Donc le collège est véritablement un des ornements de la ville de Bordeaux. Alors, évidemment, Bayonne, on le sait, n'est pas Bordeaux, mais elle l'est encore moins du point de vue de la présence des jésuites, puisque Bayonne va constamment refuser, à différentes occasions, mais de façon à peu près continue, l'installation de jésuites en tant que communauté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais eu un jésuite à Bayonne, bien entendu, mais en tant que communauté, elle va refuser constamment l'installation de ces jésuites. L'expansion donc ne la touche pas, c'est au contraire une position de rejet tout à fait caractéristique. Et pourtant, il y a de multiples tentatives dès le XVIe siècle, dès la fin du XVIe siècle au moins, mais tout au long du XVIIe siècle et encore jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire peu avant la suppression, l'expulsion des jésuites en France, Bayonne va se carapassonner sur l'idée qu'il ne faut pas introduire les jésuites à Bayonne. Alors, on peut dire qu'il y a eu de multiples tentatives pour installer les jésuites à Bayonne. Alors ces tentatives, elles viennent de deux caractéristiques essentielles. D'abord, le désir d'un certain nombre d'évêques de promouvoir la contre-réforme à Bayonne. On a vu ce matin que les jésuites étaient les auxiliaires du pouvoir pontifical. On a vu, peut-être moins, mais qu'ils ont été aussi les propagateurs, d'une certaine manière, du Concile de Trente. Et en tous les cas, il y avait la volonté d'appuyer l'effort missionnaire, l'effort de christianisation sur les jésuites. Et un certain nombre d'évêques, dont un des premiers est l'évêque Maury de Bayonne, qui va essayer qui voit des protestants partout, car c'est surtout contre les protestants que les jésuites sont évidemment employés, qui voit des protestants partout, au grand scandale des échevins bâillonnés qui s'accommodent bien que tel ou tel ne soit pas tout à fait peut-être dans l'orthodoxie la plus totale, mais qui sont de bons sujets, qui sont de bons citoyens, qui sont de bons négociants. Il va avoir des hérétiques partout et il va essayer de faire venir les jésuites à Bayonne. D'autres évêques, après lui, tout au long du XVIIe siècle, vont reprendre cette philosophie, d'autant plus qu'à Bayonne, un évêque au début du XVIIe siècle est aussi important et au-delà, il va y avoir toute une série d'évêques qui vont essayer de faire venir les jésuites, d'autant qu'au cours du siècle et au début du XVIIIe siècle, on a aussi des foyers de jansénisme qui sont relativement importants. Nous le verrons tout à l'heure. Donc les évêques, un certain nombre d'évêques, vont essayer à chaque fois de faire venir des jésuites dans le but de promouvoir la réforme catholique, de lutter contre les hérétiques et de christianiser, d'évangéliser la région qui paraît insuffisamment christianisée. Mais il y a un deuxième élément aussi qui est très important. Nous avons vu que les jésuites avaient en gros, en simplifiant beaucoup, deux fonctions principales. Une fonction enseignante, une fonction missionnaire. Et la situation de Bayonne n'est pas très brillante du point de vue de l'enseignement. Et la situation des écoles demande effectivement un effort d'organisation. Et il n'y a pas de collège à Bayonne avant 1598. Donc un retard quand même assez important par rapport à ce qu'on trouve dans des villes comme Bordeaux. Et on en parle depuis les années 1580 d'organiser un collège. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'école à Bayonne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régent des écoles, mais il n'y a pas de collège constitué avec une institution particulière, des régents qui suivent un cursus régulier. Et les jésuites, évidemment, sont réputés assez vite pour être de très bons éducateurs et en tous les cas réussir à scolariser une partie importante de la population, des villes surtout, mais aussi des campagnes. Et donc l'état de l'enseignement à Bayonne est tel que à plusieurs reprises, et ça va être d'ailleurs d'une manière récurrente, on va demander, un certain nombre d'habitants vont demander d'ailleurs qu'il y ait un collège mieux organisé, qu'il y ait donc une congrégation qui vienne prendre en charge le collège de Bayonne. Or, c'est là un enjeu fondamental qui explique très largement aussi le refus de la mairie de Bayonne, de l'hôtel de ville de Bayonne, de faire venir les jésuites. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut dire que la ville a créé un collège qui dépend d'elle. Elle a le droit de nommer les quatre régents du collège qui ont été institués. Alors, je ne vais pas faire l'historique du collège. J'ai écrit il y a naguère un article sur les élèves et les enseignants du collège de Bayonne. Il a été publié dans la Société Sciences, Lettres et Arts. Donc, ceux qui seraient intéressés pourront s'y reporter. Simplement, je me contenterai de dire que après des accords et des difficultés très grandes entre la ville, l'évêché et le chapitre, l'évêque et le chapitre, on est arrivé à un consensus qui fait que la ville nomme les régents, les quatre premiers régents du collège, et c'est la ville, le chapitre et l'évêque qui s'entendent pour nommer le principal du collège. Alors vous voyez que la ville a une mainmise sur l'enseignement. Et comme elle paie 1200 livres par an, en gros les régents, elle considère aussi qu'elle a des privilèges et qu'elle peut faire entrer au collège des gens qui pourraient ne pas y rentrer dans d'autres conditions. Et c'est un argument qui est très employé dans les conflits qui se sont développés au cours du XVIIe siècle et même au-delà. Et donc cette organisation, elle convient très bien à la ville. Et évidemment, ce sont des prêtres séculiers qui sont régents du collège et le principal est également un prêtre séculier. Et donc, la ville ne souhaite pas, globalement, dans son ensemble, qu'il y ait une congrégation qui prenne en main le collège, comme ça se fait dans beaucoup d'autres villes, et particulièrement à Dax, par exemple le voisin, où on trouve les Barnabites, ou dans d'autres, à Agen, ou dans d'autres villes, je ne reviens pas sur Bordeaux, où il y a les jésuites qui sont à la Madeleine. Donc, si vous voulez, là, il y a un enjeu extrêmement important. Or, ce collège fonctionne moyennement, et il est souvent en crise, parce que les régents ne sont pas toujours, d'abord, très bien payés. Mais ça, c'est un leitmotiv que vous entendrez longtemps. Les enseignants ne sont généralement pas très bien payés. Et donc, ça commence tôt à Bayonne. Et si vous voulez, on n'a pas non plus, comme on dit, des sujets toujours de grande qualité. À titre anecdotique, la ville a trouvé à Saint-Jean-de-Luz un prêtre pour le faire venir au collège. Mais ce prêtre, qui est sans doute très compétent, veut pouvoir prêcher l'Avent et le Carême à Saint-Jean-de-Luz. Il est de santé fragile et il s'en va assez fréquemment dans ses terres lusiennes. Et donc, il laisse les élèves sans enseignement. Et donc, évidemment, il a pris un associé, si je puis dire, qui ne vaut guère mieux et qui, de toute façon, quant à lui, est très attiré par ses terres landaises. Donc, si vous voulez, le collège reste en souffrance une partie de l'année. Alors, quand ces situations se produisent, il est bien évident qu'il y a un certain nombre de gens dans la ville qui voudraient que le collège soit beaucoup mieux organisé. Et qui pourrait mieux organiser le collège ? Eh bien, des congrégations religieuses. Et évidemment, la congrégation de référence, les jésuites. Et donc, le collège est un enjeu constant de la difficulté des relations entre la ville et les jésuites. Alors, en fait, on peut dire que, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, l'opinion est relativement partagée sur la présence des jésuites. Elle est relativement partagée sur la présence des jésuites et en simplifiant un petit peu, on peut faire comme très rapidement un peu de sociologie de cette population. Il faut dire que dans l'ensemble, les jésuites sont eux-mêmes issus de milieux plutôt aristocratique ou en tous les cas du milieu des gens de droit, des classes qui ont des fonctions assez importantes dans l'administration et surtout ils recrutent des élèves qui sont issus des milieux des offices, des milieux de la justice, des milieux qui sont des milieux déjà élevés dans la société, sans être forcément au sommet de la société, et qui aspirent pour leurs enfants à leur trouver une situation, soit dans les ordres, soit dans le clergé, donc, soit dans l'administration, soit en faire des avocats. Le métier d'avocat étant le premier métier méritocratique et qui crée les nouvelles élites au XVIIe siècle, c'est-à-dire un métier où, par les études, on peut grimper l'ascenseur social dont on nous parle tant aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, ce sont des gens qui fournissent à la justice, qui fournissent au clergé, mais évidemment qui ne fournissent pas beaucoup au négoce, vous l'aurez compris. Et donc, à Bayonne, il y a un petit milieu des offices, le lieutenant du sénéchal, les lieutenants de l'amirauté, les procureurs du roi, qui ne sont pas très nombreux. Mais tous ces gens-là, les militaires également, tous ces gens-là sont assez favorables, en schématisant, car évidemment, je vais très vite là-dedans, sont assez favorables à ce qu'il y ait des jésuites à Bayonne qui prennent en main le collège et qui donnent une éducation qui permette à leurs enfants de progresser dans la société, dans l'échelon social, de devenir avocat ou de devenir clerc éventuellement. Et puis, donc cette partie-là, elle est minoritaire à Bayonne, vraisemblablement, et en tous les cas, il y a les milieux donc, de la noblesse, en gros, militaire également, qui sont assez favorables. Et puis en face, il y a globalement le monde du négoce, le monde des marchands, qui n'a pas véritablement d'aspiration particulière à ce que ses enfants fassent autre chose que leur succéder, parce qu'en fait, ils ne sont pas mécontents de leur sort, et que dans tout état de cause, ils veulent avoir des successeurs. Vous savez que les parents souhaitent souvent avoir des successeurs, et donc ils préfèrent avoir des enfants qui vont être formés pour le négoce que finalement des enfants qui seront formés pour le droit. Et en plus, il y a l'idée assez répandue, et que nous verrons, que finalement, ça détourne même les élèves du comptoir que de leur faire faire des versions latines ou apprendre les tragiques grecs. Donc il y a véritablement ce clivage. Et puis il y a ce que les textes appellent le peuple. Le peuple, c'est une notion, comme vous le savez, extrêmement variable, qui commence à se définir à peu près au XVIIe siècle. En gros, on peut dire que le peuple, c'est tous ceux qui ne sont pas privilégiés, tout au moins qui n'appartiennent pas, car dans l'Ancien Régime, tout le monde a un petit privilège par rapport à l'autre, mais en gros, ce ne sont pas des enfants qui sont des milieux qui sont privilégiés, c'est le milieu des métiers, des compagnies, et qui aspirent, elles, ces compagnies, à ce que leurs enfants puissent recevoir quand même une éducation de base, et qui mettent leurs enfants au collège, mais qui veulent pouvoir les mettre sans beaucoup de frais. Or, ils peuvent bénéficier d'un enseignement peu coûteux, car l'enseignement à Bayonne est dans l'ensemble peu coûteux. Et donc, ils sont plutôt favorables au statu quo, et ils ne veulent pas spécialement qu'une congrégation religieuse, et a fortiori les jésuites, viennent s'installer dans la ville. Alors voilà, si vous voulez, un petit peu les questions, là, le tableau. Alors, en fait, on peut dire que l'histoire des jésuites est assez agitée et il y a, je l'ai dit, des tentatives successives pour que les jésuites entrent à Bayonne. Alors, il y a plusieurs occasions et en 1500, alors je vais en résumer quelques-unes, mais pour vous donner une chronologie rapide ces faits, on peut dire qu'en 1606, en 1609, en 1613, en 1616, il y a répétitivement des tentatives pour placer à la tête du collège des jésuites. Et en fait, toutes ces tentatives échouent. En fait, parmi les plus importantes, en 1613, le père Bort, disent les textes, je cite, « excelle dans cet esprit artificieux qui est propre à la compagnie et pratique quelques-uns des magistrats pour avoir en fait leur oreille afin de mettre les jésuites au collège de Bayonne. Et ce père Bort, B2ORT, a de toute façon aussi l'oreille de Gramont qui est le gouverneur de Bayonne. Et en fait, les magistrats sont finalement pas circonvenus complètement et ils ne sont pas favorables et ils demandent le bannissement perpétuel des jésuites qui est prononcé au conseil de ville de Bayonne. Et on leur donne 3 jours pour ceux qui sont présents de la ville pour partir. Donc vous voyez que c'est une expulsion, on peut dire, pas manu militari, mais en tous les cas expéditive. En 1614, le père Coton, que tout le monde connaît, parce que c'est un jésuite éminent, et en même temps, il est confesseur du roi, entre autres, mais en même temps, il a été chargé de mission aussi, puisqu'il y avait eu l'affaire des sorcières dans le labour à Bayonne, et qu'il avait été chargé d'une enquête sur la sorcellerie dans le labour. Et il est venu donc à Bayonne, après le Pierre de Lancre, et en tous les cas, il revient, et sous prétexte de s'installer, d'aller à Loyola, il séjourne à Bayonne, il y prêche, il fait des visites particulières, et il, je dirais, tâte le terrain. Il tâte le terrain pour savoir si véritablement on peut installer les jésuites. C'est un homme intelligent, il comprend qu'il y a peu de chances de réussir. Et ayant vu, donc je cite toujours les textes, mais ayant vu l'opposition, il se retira tout doucement. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a 1615. 1615, c'est le passage des reines avec le duc de Guise, et le duc de Guise, qui est un favorable, un partisan des jésuites, parti catholique, contre, bien sûr, qui avait, dans la période antérieure, été opposé aux Valois, et il est ami des jésuites, et il conduit Élisabeth de France, qui va épouser le roi d'Espagne, et il pense que la ville pourrait accepter l'établissement des jésuites, toujours au collège, hein. L'établissement c'est toujours au collège, et il demande véritablement cet accord. Mais, disent les textes municipaux, les raisons avancées lui l'amenèrent à renoncer à s'établir. Donc vous voyez que là encore, il se rend aux raisons des bâillonnets, et les jésuites qui persévèrent, qui sont opiniâtres comme pas possible, s'adressent alors à Madame Élisabeth, et ils la pressent de faire accepter l'établissement dans la ville des jésuites, mais en fait, et on dit qu'il pourrait s'installer à la chapelle Saint-Thomas, près du collège, ce qui serait très bien puisqu'il serait également au collège, mais en fait, il supplie, les magistrats supplient la princesse d'y renoncer, et la princesse accepte d'y renoncer, mais en échange, elle fait fonder les Capucins. Les Capucins qui n'existaient pas à Bayonne jusque-là, et un couvent des Capucins est fondé en 1615. Alors, on considère que là, véritablement, les jésuites ont compris qu'ils ne vont pas poursuivre leur tentative, et effectivement, on a une grande période de calme, si je puis dire, jusqu'en 1654. En 1654, le père Duchesne est appelé pour prêcher, parce que on ne les accepte pas, mais l'évêque est puissant, c'est lui qui choisit les prédicateurs de carême, quelquefois avec l'assentiment de la ville, mais pas toujours, et on ne peut pas toujours tout refuser. Donc le père Dufresne, est venu prêcher, et là, il est d'une extrême maladresse. Il est d'une extrême maladresse parce qu'il prêche, mais s'en prend, alors j'y reviendrai, à une figure emblématique de Bayonne, l'abbé de Saint-Cyran, du Vergier de Oran, qu'il qualifie durant son prêche d'hérétique. Alors, en fait, c'est un véritable scandale, mais il ne s'en tient pas là, car en même temps, il demande que les jésuites soient installés à Bayonne. C'est un homme rusé. Il va trouver un subterfuge qui va un peu déconcerter les bâillonnais. Les bâillonnais, j'ai mis un plan qui ne se voit pas très bien sur l'écran, mais il va, voyez, vous connaissez tout le monde ici connaît Bayonne, je suis sûre, mais enfin peut-être certains ne l'ont pas en esprit, il va non pas demander une installation dans la ville, qu'il sait qu'il va être refusé, mais prétestant d'une mission dans les terres rurales de la paroisse Saint-Étienne, qui est dans le diocèse de Dax, qui n'est pas dans la juridiction de Bayonne, il va demander et obtenir à la fois du duc de Gramont et du roi une installation des jésuites à Saint-Esprit, à la maison de Lipos, qui est juste à l'ouest de la citadelle. Enfin, c'est dans cette zone, qui est donc très proche de Lipos, c'est l'emplacement de la gare de marchandises, hein, de Bayonne, en gros. Donc vous voyez que c'est quand même très près de Bayonne. Et là, alors, ça va être le déchaînement des passions. Ça va être le déchaînement des passions, je vais y revenir. Mais il faut dire que ça va être un paroxysme, mais en fait, ce n'est pas le dernier. Il va y avoir en 1679, en 1683, en 1699, en 1729, en 1747, de nouvelles tentatives pour que les jésuites s'installent au collège, soient présents dans la ville. Et en fait, entre-temps, peut-être pour répondre aux exigences d'un certain nombre de bâillonnais, on a tenté l'expérience en faisant venir des doctrinaires, surtout et sous l'influence de l'évêque Monseigneur Druyer, mais on a également essayé de faire venir donc des barnabites, et tout cela ne satisfait pas la population, en tous les cas, pas les échevins. Et donc, on peut dire que, vous voyez, et la dernière grande manifestation dont je vais vous parler, c'est celle de 1748. Alors, rapidement, je vais prendre trois exemples de ces manifestations qui sont extrêmement... celle de 1654, 1657 est véritablement tout à fait exceptionnelle quand même, parce que, je l'ai dit, les jésuites ont eu des problèmes d'installation ailleurs. Hein, il n'y a pas qu'à Bayonne, mais ça n'a pas atteint, tout au moins à ma connaissance, cette ampleur. En fait, que s'est-il passé en 1654-57? Eh bien, en 1654-57, donc ce père Dufresne a trouvé l'astuce de faire installer les jésuites à Lipos, et il a trouvé la maison d'un baïonnais, monsieur Dibusti, un négociant, mais un négociant qui a des ambitions aussi d'anoblissement, qui veut rentrer véritablement dans la société plus élevée, et son fils d'ailleurs sera anobli à Londres. C'est une famille importante. Et donc il accueille les jésuites, et là, il y a alors plusieurs épisodes qui se développent. Et en fait, le premier de ces épisodes, c'est que la ville, il y a dans le corps de ville, je vous l'ai dit, une partie qui n'est pas hostile à la venue des jésuites. Et en fait, la ville est supposée, décidée, malgré tout, d'accepter l'installation des jésuites, bien qu'elle ne soit pas sur son territoire. Bayonne n'a pas de juridiction sur Saint-Esprit, mais c'est quand même, vous voyez, le pont qui les sépare et la quotidienneté des relations qui se fait. Et alors, en fait, il y a deux épisodes dans ce qu'on peut appeler véritablement une émotion considérable à Bayonne. C'est une véritable révolte. Une véritable révolte. Alors, il y a deux temps que j'évoquerai. La première, donc, c'est l'installation des jésuites chez le bourgeois Dibusti, et évidemment, on fait à Bayonne des efforts pour les faire partir. Il y a eu une assemblée antérieure qui a décidé que l'on ne voulait pas des jésuites. Mais cette assemblée, elle a été assez houleuse et elle a été assez faussée. On a demandé à main levée, et comme il y avait une pression quand même anti-jésuites, un certain nombre de présents n'ont pas osé lever la main pour dire qu'ils voulaient des jésuites. En tous les cas, le score, si je puis dire, est pas très net. Mais il y a quand même une véritable opposition majoritaire, dirons-nous, à cette présence des jésuites. On envoie donc une délégation des échevins à la maison des jésuites à Bergogne pour dire le mécontentement du peuple et demander aux jésuites de partir car ils provoquent la division dans la ville. Les jésuites répondent fort justement qu'ils sont hors de la juridiction de la ville, qu'ils ont l'autorisation du gouverneur qui est venu assister à la pose de la première pierre de la maison future des jésuites, et ils ont les lettres patentes du roi qui les autorisent à s'installer. Alors, ils refusent de partir. À qui s'adresser ? À l'évêque de Dax, puisque les jésuites, qui sont dans une situation particulière, puisqu'ils ont une exterritorialité, mais que quand même, ils doivent d'une certaine manière quand même être acceptés par l'évêque ou l'archevêque, et on demande à l'évêque de Dax de faire pression sur les jésuites. En fait, l'évêque de Dax n'est pas très favorable aux jésuites, à l'évidence, et il accepte de demander leur appel. Mais, entre-temps, il y a une émotion classique à Bayonne. Tous les gens qui font de l'histoire moderne savent ce que c'est une émotion. On se rassemble sur la place publique, on envahit le cloître, un habitant prend un tambour, les autres suivent, il y a un attroupement, les échevins arrivent, on ferme les portes vers l'Espagne, la porte de l'Achepaillée et la porte d'Espagne, mais on ne ferme pas la porte Saint-Esprit. Vous m'avez compris tout de suite. Et donc, dans ces conditions, il y a cette émotion. Et en fait, on demande, la ville demande au lieutenant général du Sénéchal d'appuyer son action pour faire partir les jésuites. Le lieutenant général dit, il y a trop de monde. Moi, je ne veux pas m'en mêler, d'autant que je suis favorable aux jésuites. Donc, en fait, l'émotion part de la place publique, c'est la place de la cathédrale, et se dirige vers le pont Saint-Esprit. En chemin, on trouve un échevin qui était dans un corps de garde à veiller. Il est amené de force, semble-t-il. En tous les cas, c'est ce qui se dit. En tous les cas, il est placé en tête de la manif. Et en tous les cas, à ce moment-là, tout le monde part vers la maison des Jésuites. Affolement un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier échevin dit qu'il va revenir voir les Jésuites. Et il revient voir les Jésuites, mais il croise en chemin la foule qui s'en va, et il dit qu'il ne peut pas faire grand-chose. Entre-temps, voyant quand même l'émeute qui se profile, le responsable des Jésuites accepte de demander le rappel des Jésuites au provincial, mais évidemment, ça met du temps, et de toutes les manières, les émeutiers sont lancés. Et donc, dans ces conditions, ils se précipitent vers la maison. Il y avait un ciboire et des hosties. Ils les emportent pour les ramener à la cathédrale de Bayonne. Et d'autre part, c'est un acte très grave, évidemment. Et d'autre part, ils enlèvent les tuiles de la maison, ils saccagent les meubles. Je vais vous dire que les Jésuites partent.
Les Jésuites vont-ils partir de Bayonne? Nous retrouvons Josette Ponté pour la suite et la fin de son intervention.
Voyant quand même l'émeute qui se profile, le responsable des Jésuites accepte de demander le rappel des Jésuites au provincial, mais évidemment, ça met du temps, et de toutes les manières, les émeutiers sont lancés. Et donc, dans ces conditions, ils se précipitent vers la maison, il y avait un ciboire et des hosties, ils les emportent pour les ramener à la cathédrale de Bayonne, et d'autre part, c'est un acte très grave, évidemment, et d'autre part, ils enlèvent les tuiles de la maison, ils saccagent les meubles, je vais vous dire que les Jésuites partent. Donc, ils n'ont pas d'autre solution que de partir, et c'est ce qu'ils font. Alors, en fait, vous voyez que là, c'est une émeute, hein, c'est une émotion, au moins. Et l'enquête est faite par l'évêque de Dax, les magistrats sont quand même assez embêtés, d'autant qu'ils reçoivent quelque temps après une lettre très mécontente du roi, qui convoque les deux premiers échevins à se rendre auprès de lui, et ils savent très bien que ce n'est pas pour les féliciter. Et donc, en fait, il y a, dans ces conditions, un long plaidoyer qui est rédigé par la mairie, par l'hôtel de ville de Bayonne, et ce long plaidoyer de plusieurs, d'une quinzaine de pages, va essayer de défendre la position de la ville, et c'est envoyé en août 1657. Deuxième temps, les tensions dans la ville. Là, on a expulsé les Jésuites, mais les partisans et les opposants des Jésuites demeurent. Et c'est la deuxième partie. Le parti des Jésuites, autour d'un certain nombre de personnes, le fils du lieutenant général de Hureau, le juge de l'amirauté de la Lande, quelques autres, décident de réagir. Et ils transforment la maison du lieutenant général en corps de garde. Et ils s'arment, on distribue les armes aux partisans des Jésuites, qui ont pour défense de dire que ils ont été marqués, les maisons des Jésuites sont marquées d'une croix blanche, et évidemment, ils s'attendent à être attaqués, voire massacrés. Voyez l'ambiance qui peut régner dans la ville. Les gens qui sont armés rencontrent un échevin d'Acarette qui a 75 ans, qui se plaint de ne pas pouvoir se déplacer, mais qui se déplace quand même, et qui, en fait, parce qu'il refusait de se rendre auprès du roi, mais mal lui en prend, il est bastonné, et il est mis à mal, pas tué, mais mis à mal. Alors, en fait, les anti-jésuites, évidemment, disent « nous ripostons ». Et donc, ils forcent la porte de l'hôtel de ville, où se tenait un conseil le 9 août. Ils sont contre le départ des échevins, et ils veulent faire chose importante. Les jésuites, non seulement ont transformé la maison de Dehureau en corps de garde, mais ils ont fait une barricade, deux barricades, à chaque extrémité de la rue du Pont-Majour, c'est-à-dire la rue Victor Hugo actuelle. Et donc, nous sommes dans une situation véritablement très, très grave. La milice bourgeoise est réunie, un peu tard. Les quatre capitaines doivent faire régner l'ordre, alors que le peuple crie aux armes, aux armes. Certains disent je ne l'ai pas trouvé, alors peut-être ça m'a échappé. Vive le roi sans les jésuites, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne l'ai pas vu. On sonne la grosse cloche de la cathédrale. Enfin bon, c'est véritablement assez tendu. Alors, coup de génie du premier échevin, et ça rappellera à certains l'attitude de Montaigne face à l'émeute bordelaise qui, fort de l'enseignement d'une révolte antérieure, a décidé de prendre son cheval, de foncer, de faire le tour lui-même de la ville, des garnisons, des manifestants, des opposants. Avec une pique, il monte sur son cheval, il est suivi par la milice et tout rentre dans l'ordre. Momentanément au moins, mais il décide, c'est une manifestation de la puissance publique face aux émeutiers. En tous les cas, les magistrats ne quittent plus l'hôtel de ville. Le lendemain, le 10 août, une nouvelle émotion. Pour calmer le conseil, on décide que les magistrats ne se rendront pas auprès du roi et on envoie des lettres au baron d'Orth pour qu'il agisse, aux bourgeois d'Etcheverry qui représentent en quelque sorte la ville à la cour. Il y a une accalmie, la milice, les soldats du guet refusent d'être commandés par des pro-jésuites, donc on leur demande de rester chez eux, ce qui alourdit considérablement le guet, mais cela va durer jusqu'au 5 octobre. Donc, vous voyez, la ville fait appel aux compagnies des artisans pour essayer de ramener le calme. À ce moment-là, la lande, qui était le premier échevin, est devenu procureur du roi. Il va rencontrer le roi à Paris et il se fait entendre. Et finalement, après des détails que je vous passe, le 26 janvier 1658, il y a l'abolition de la colère royale, l'absolution des partisans des jésuites, l'absolution des partisans des anti-jésuites. Et tout rentre dans l'ordre avec quelques séquelles, cependant dans les esprits, parce que c'est une véritable affaire Dreyfus avant la lettre. Les frères et les sœurs ne se parlent plus, les amis ne se côtoient plus. Véritablement, on a une atmosphère extraordinaire au sens propre du terme à Bayonne. Alors évidemment, on pense que les choses sont réglées, elles ne le sont pas tout à fait, parce que en fait, il y a toujours donc des demandes de jésuites, en quelque sorte, à Bayonne. Et en 1689, alors ce sont les maîtres artisans qui se rebellent véritablement contre des magistrats qui demandent les jésuites. Parce qu'évidemment, le corps de ville change, il y a des élections tous les ans, même si elles ne sont pas démocratiques, il y a un renouvellement. Et donc, ils demandent véritablement, et là, il y a une passe d'armes absolument littéraire, cette fois, entre les artisans et un certain nombre d'officiers municipaux qui veulent faire venir les jésuites. Et donc, on est véritablement là aussi au bord du drame, mais on a évolué, on est dans le domaine de du procès. Et les artisans font un procès, ce n'est plus les armes qui parlent, il y a là une sorte d'évolution quand même des esprits. Enfin, dernière évocation, celle de 1748, alors qui est beaucoup moins connue, parce qu'en fait, en 1748, il s'agit véritablement d'une manœuvre, je dirais, de complot. Et une manœuvre de complot, le maire et Léon Brotus, l'archevêque Guillaume d'Arche, le président de la Chambre de commerce et l'abbat. Et un certain nombre de ces gens, sous l'impulsion de l'évêque Guillaume d'Arche, qui est catastrophé du niveau lamentable des élèves à Bayonne, qu'on ne sait pas lire, qu'on ne lit pas, etc., veut faire venir à nouveau les jésuites. Et donc le maire, Léon Brotus, réunit 3 ou 4 personnes, et là on le sait, non pas tellement par les archives qui n'en parlent pas, mais par des écrits de correspondance privée, car il y a un échange de correspondance entre l'abbat, le député de la ville à Paris, du commerce d'Olivier, qui est le frère de l'abbé d'Olivier, qui est très bien avec l'ancien archevêque, l'ancien évêque de Bordeaux, de Bayonne, qui est devenu l'archevêque de Paris, Beaumont, et en fait, Christophe de Beaumont, et il y a une machination. Une machination, mais comme toutes les machinations, vous savez que parfois, il y a des révélations. Et ceux qui sont censés se taire parlent. Et donc, en réalité, eh bien, là, il y a un élément tout à fait intéressant de complot. Et un homme, qu'on ne connaît pas, enfin, du moins, je ne l'ai pas identifié, envoie, fait écrire 30 dossiers anonymes, donc, refaisant tout l'historique des jésuites et de leur non-accueil à Bayonne, revenant depuis 1606, et disant « nos pères que nous devons respecter, n'ont jamais voulu les jésuites. Comment nous pourrions-nous les vouloir ?» Alors que nous n'avons pas de raison davantage de les vouloir, et le réquisitoire est assez étonnant. Et donc, ce complot est assez intéressant, parce que en fait, on refait le député à Paris, que l'on sollicite pour intervenir auprès des puissants, c'est le roi, c'est pas le roi peut-être, mais son entourage, refait le corps de ville. On va déboulonner le maire, on va sortir deux ou trois personnes, dont Kroll, Montpellier et un autre, que surtout Desbiers, on ne veut plus voir à aucun prix. Mais cette affaire, en fait, est morte, je dirais, dans l'œuf. Parce que, en fait, on a vu qu'il y avait là un sujet, une poudrière encore, et le maire a préféré, avec les quelques personnes qui se complotaient, étouffer. Il n'y a pas eu de suite et il n'y a jamais eu depuis de jésuites à Bayonne. Alors, en fait, ce que l'on peut dire, c'est quelles sont les raisons de cette hostilité des jésuites. Alors, il y en a beaucoup, mais je n'aurai pas le temps de les évoquer toutes. Simplement, il y a, je dirais, un fond d'argumentation nationale. Un fond d'argumentation nationale, c'est-à-dire des idées que l'on trouve un peu partout, contre les jésuites, et particulièrement au nom du principe national. Ce principe national est quelque chose de fondamental. Il est particulièrement bien exprimé par Étienne Pasquier, un des auteurs, un des juristes tout à fait remarquables de la fin du XVIe siècle, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un catéchisme des jésuites, qui était une satire très virulente, mais il a écrit aussi les représentations de la France. C'est un des premiers historiens de cette nouvelle histoire du XVIe siècle. Et il dénonce les jésuites comme particulièrement des agents de l'étranger. Et c'est le reproche majeur, enfin un des reproches majeurs fondamentaux. Nous sommes en pleine période d'émergence de l'idée nationale, elle est déjà un peu développée, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'émergence du français. Or, les jésuites enseignent en latin, écrivent en latin. Il ne faut pas perdre de vue que les jésuites sont issus de la fondation que nous avons vue, des fondateurs, qui sont des Espagnols. Et en fait, c'est leur vice fondamental. Alors, c'est leur vice un peu partout, à demi-moine, à demi-espagnol, deux tiers étrangers. Voilà, si vous voulez, en résumé, une critique que l'on trouve assez, puisqu'ils ne sont pas tout à fait moines, puisqu'ils vivent dans le siècle tout en étant communauté, et ils sont très largement espagnols. Et donc, évidemment, cela est un critère. Nous sommes dans le développement du gallicanisme, qui existe avant, mais qui se développe véritablement. Et Étienne Pasquier est un des auteurs véritablement, je dirais, très très important. Or, dans les rares bibliothèques qu'on peut trouver à Bayonne, il y a celle d'Étienne de Poète. Étienne Poète, dont le fils sera maire de Bayonne dans les années 1730, mais qu'il est avocat à Bayonne. La bibliothèque est celle qui a été inventoriée à la mort du fils. Étienne Poète. Mais en tous les cas, elle était constituée avant, et en tous les cas, en partie par son père. Or, on trouve les recherches de la France d'Étienne Pasquier. On trouve toute la littérature qui est très anti-jésuite. Hein, on trouve les livres de Malebranche, on trouve une bibliothèque de très grande qualité, hein, qui est rarissime à Bayonne. Mais si vous voulez, ce poète, il est ami, il est parent avec les Veillé, qui sont une autre grande famille bayonnaise, dont Veillé, on parlait ce matin du Collège de Navarre, il a été élève du Collège de Navarre. Il est docteur en Sorbonne. Et il y a tout un milieu bayonnais. Moi, j'ai été frappée en faisant cela de voir les réseaux, hein, qui se développent. Ce n'est pas, Bayonne n'est pas une ville isolée, même si elle est à la frontière. Elle est véritablement en liaison permanente avec ce qui se passe ailleurs, et particulièrement à Paris. Et donc, il y a ce fond commun, je dirais, qui est anti-espagnol, donc anti-jésuite, parce qu'étranger. Alors, ce n'est pas la seule chose que reproche Étienne Pasquier aux jésuites, mais c'est une chose extrêmement, l'argument national. Or, cet argument national, il est évidemment tout à fait exorbité à Bayonne. Parce que Bayonne est la ville frontière, elle est à deux pas de l'Espagne, elle se bat, elle se défend pour protéger le royaume de France contre les Espagnols. Et ne voilà-t-il pas qu'on va lui mettre des jésuites, qui ne sont que des agents de l'étranger. Et nous sommes, en 1656 particulièrement, 1654, dans un contexte de complot permanent. On arrête des espions, on les trucide. On expose leur tête à la potence de la ville. Et donc, il y a véritablement un climat absolument de défiance à l'égard de l'Espagne. Bayonne, c'est la dernière forteresse qui protège. Et lorsque les Bayonnais veulent écrire en 1656-57 au roi, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? La fidélité de Bayonne. C'est la seule ville qui défend. Et on prête au roi Louis XIV, Louis XIII, l'aurait-il dit, je ne sais pas. En tous les cas, que n'ai-je plusieurs Bayonne dans mon royaume, hein? Et donc, vous voyez qu'il y a là toute une série de confluences absolument extraordinaires sur ce mobile anti-espagnol. Et donc, en même temps, les jésuites, où sont-ils? À Pampelune. Mais qu'est-ce que c'est Pampelune? C'est l'ennemi de la France. Hein? Et Ignace de Loyola, mais enfin, il en veut à la France d'avoir été blessé au siège de Pampelune. Toute sa vie en a été marquée et il se venge. C'est dans les textes, hein, ce n'est pas moi qui extrapole. Hein. C'est dans les textes. Hein. Il se venge justement des Français en venant les corrompre, en venant essayer de s'emparer de Bayonne. Bayonne, 1657, on sort de la fronde. Bayonne a tenu, elle a résister aux sirènes de Condé pour ouvrir la porte de Bordeaux aux Espagnols. L'Espagne, c'est la Ligue, c'est le parti de l'étranger, les jésuites, c'est la Ligue, c'est le parti de l'étranger. Donc il y a véritablement, je synthétise, mais vraiment il y en a des pages, hein, sur cet argument qui est absolument fondamental. Alors, autre argument, alors le jansénisme, me direz-vous. Alors le jansénisme, oui, et non, parce que je remarque que 1654-1656, les provinciales que l'on va trouver dans la bibliothèque de Poète ne sont pas encore publiées. Et donc, elles ne sont pas lues. Alors, il y a bien sûr Duvergier de Oranne, mais qui a lu l'Augustinus à Bayonne? Je m'interroge. Et donc, il est bien évident que c'est plus, en fait, un milieu. Les Duvergier de Oranne, ça fait partie d'un patrimoine bayonnais. Ils sont alliés avec d'autres familles de Hetz, Barcos, etc., qui sont parents. Ils ne sont pas seulement alliés, ils sont alliés parents. Il y a à Bayonne un milieu qui est favorable à Duvergier de Oranne, qui certes le considère comme un monument bayonnais. Saint-Cyran, c'est un monument bayonnais. Et donc, si on attaque Saint-Cyran, bien sûr, ça ne fait pas plaisir absolument. Et donc, c'est un élément. Mais et il faudrait noter aussi que lorsque Monseigneur Druyer rejette la bulle Unigenitus que défendent les jésuites, il est évident que dans le diocèse, personne ne va contre. Hein, et donc, il y a sans doute un fond plutôt janséniste. Je dirais plutôt augustinien. Parce que, comme toute l'Église de France, à ce moment-là, elle est plutôt augustinienne. Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsque les Bayonnais écrivent à Louis XIV pour se dédouaner de leur mauvaise volonté, de leur action insuffisante, de leur, finalement, complicité avec les émeutiers, ils citent, comme le dit fort bien le grand saint Augustin. Hein, donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est un fond assez commun. Et donc, il y a véritablement cela. Et puis, il y a alors des arguments beaucoup plus bas, mais aussi très répandus, et que Pasquier a été un des premiers à développer, et qu'on retrouve alors de façon récurrente à Bayonne, c'est l'argument de la concurrence déloyale des jésuites dans le domaine du commerce. Les jésuites, en fait, vont être les concurrents des marchands bayonnais. D'ailleurs, on les voit faire des lettres courtes sur Madrid. Dans le trafic, ils peuvent armer des bateaux à Cadix. Ils ont à Marseille, leur procureur va sur le port à la bourse comme les négociants. Et que restera-t-il aux pauvres négociants qui sont bien moins intelligents que les jésuites, qui ont bien moins de relations qu'eux? Eh bien, non, il ne faut pas. Cette petite ville n'a que les négociants pour vivre. Elle n'a rien d'autre. Et alors me direz-vous, et je terminerai par là, et le collège? Eh bien, le collège, mais que les Bayonnais ont-ils à faire d'un collège florissant? D'abord, celui de Pau, alors ça c'est en 1748 qu'on le dit, celui de Pau, qu'est-ce qu'il a produit? Pas grand-chose. Et donc, en fait, le collège de Bayonne, tel qu'il est, il est aussi florissant que celui de Pau. Et d'autre part, dans une ville qui est située aussi loin du territoire, qui est une ville de négoce, mais est-ce que ce n'est pas une nécessité d'envoyer ses enfants aller voir ailleurs et nouer des relations commerciales avec d'autres? On ne peut pas vivre en vase clos. Et en plus, à Bayonne, il y a 3 avocats. Il y a une toute petite juridiction qui ne dépasse pas les murs de la ville. C'est vrai, je vous ai dit Saint-Esprit. Et qu'a-t-on à faire de gens qui vont former des magistrats, des avocats, des clercs? Il y en a assez. Bientôt, si on acceptait encore les jésuites, eh bien, la ville ne se reproduirait plus. Et donc, il est évident qu'avoir trop d'ecclésiastiques, ce n'est pas valable. Et enfin, qu'a-t-on à faire d'avoir beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves? Et vous ne me contredirez pas, les élèves, c'est source d'insécurité. C'est source d'insécurité et ils sont turbulents, ils vont faire craindre aux femmes de sortir dans la rue, ils sont absolument infernaux, et on a des exemples évidemment des grandes manifestations, Jean-Pierre Poussou a montré pour Bordeaux les méfaits des collégiens bordelais avant la lettre, et donc on peut dire qu'il y a tous ces arguments. Enfin, Bayonne, c'est une petite ville qui n'a pas de ressources, et comment pourrait-elle en son sein avoir autant de couvents? Ça serait une concurrence pour les malheureux capucins. Il n'y a pas, en plus, ils n'ont pas vraiment d'utilité, ils n'ont pas de congrégation féminine, on a les Ursulines et les Visitandines. En fait, ce qu'il faut persuader le roi, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de jésuites à Bayonne. Voilà ce que l'on peut dire sur cette affaire.
Bayonne et les jésuites à l'époque moderne. Vous venez de suivre une conférence de Josette Ponté, professeur émérite des universités. Conférence enregistrée le 19 avril 2006 lors du colloque du 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier 1506-1552.